Au-delà du rêve, une émission proposée et présentée par Jean-Pierre Seguin sur Radio Neptune.
Si on se réfère à la définition géographique, l'Iroise, et non la mer d'Iroise comme on l'appelle improprement, est la partie de l'océan Atlantique située entre les îles de Saint et d'Ouessant. Parsemée d'îles, c'est une mer dangereuse, autant par ses courants que par ses rochers, ce qui justifie certainement que c'est l'endroit où on rencontre le plus de phares. C'est une mer riche en biodiversité qui a justifié son classement par l'UNESCO en réserve de biosphère. Il n'est donc pas surprenant que la richesse, la beauté, la rigueur aussi de l'Iroise a modelé sur les terres qu'il aborde une culture, une histoire et une littérature originale. Henri Kefelec et ses enfants, Yann et Anne, Pierre Macorlan, Victor Ségalin, Pierre Perron, j'en passe bien évidemment. Une telle richesse culturelle et artistique ne pouvait que susciter la curiosité des chercheurs qui, dès 1858, se regroupaient en une société académique, société qui devait malheureusement disparaître en 1914. Allait suivre une période blanche de 40 années, jusqu'à ce jour de 1954, où des intellectuels et chercheurs brestois créaient la Société d'études de Brest et du Léon, avec comme premier objectif la publication d'une revue consacrée aux lettres, à l'histoire, au tourisme et à la chronique brestoise. Cette publication fut appelée « Les cahiers de l'Iroise » et succéda à la nouvelle revue de Bretagne qui venait elle aussi de disparaître. Pendant presque 50 ans, 49 pour être précis, la Société d'études de Brest et du Léon a publié chaque trimestre un cahier de l'Iroise, soit pour cette période 197 numéros. Aujourd'hui, les parutions sont semestrielles et bâties autour d'un thème fort, un événement, un homme, une ville, etc. Les cahiers de l'Iroise, associés aujourd'hui et pour favoriser la diffusion à la coopération des bibliothèques de Bretagne, est une mine d'informations pour les chercheurs travaillant notamment sur l'histoire et la culture bretonne. La Société d'études de Brest et de Léon a été présidée depuis sa création successivement par Edmond Soufflet, Georges-Michel Thomas, Jacques Gury et Patrick Galliou, et depuis 2012, elle est dirigée par un éminent universitaire, docteur ès lettres et professeur d'histoire médiévale à l'Université de Bretagne occidentale. Il a accepté de venir nous parler ce soir de lui, de la Société d'études de Brest et du Léon, et des cahiers de l'Iroise, je l'en remercie. Bonsoir Yves Coativi.
Bonsoir.
Tout d'abord, merci. Et alors, je voudrais rectifier tout de suite une chose que vous m'avez dit quand je vous ai contacté. Vous m'avez dit, c'est un grand honneur pour moi de venir ici. Alors, je rectifie, l'honneur et le plaisir, il est pour nous.
Bien. Dans ta.
Alors, Yves Coativi, comme je viens de le dire dans mes propos liminaires, vous êtes donc docteur ès lettres et professeur à l'UBO. Quel était votre parcours?
Alors, j'ai un parcours tout à fait classique, puisque j'ai été lycéen à Brest, Notre-Dame de Carbonne. Ensuite, j'ai fait mes études à Brest, et donc très tôt, je me suis pris de passion pour le Moyen-Âge. Donc, j'avais fait un mémoire de maîtrise à l'époque avec Jean-Pierre Hervé, et puis ça a continué. J'avais démarré sur la monnaie, et j'ai continué sur l'étude de la monnaie bretonne, et spécialement à la fin du Moyen-Âge, puisque c'est un vecteur, la monnaie, qui permet d'envoyer des influences, de diffuser des idées politiques, et puis qui relève aussi de l'économie, de l'art, etc. Donc la monnaie révèle très très bien une époque, un fonctionnement de l'État, et en l'occurrence de l'État breton, à sa à son apogée à la fin du Moyen-Âge. Donc ça a été mon grand sujet de recherche. Et puis, plus récemment, j'ai réorienté, tout en gardant cet intérêt pour les pièces de monnaie, j'ai réorienté ma recherche vers l'État. Les tout débuts de l'État, c'est-à-dire comment naît au XIIIe et au début du XIVe siècle la principauté bretonne et comment autour du duc on commence à trouver des serviteurs, des personnages qui réfléchissent à ce que c'est que la Bretagne et comment est-ce qu'on peut organiser et administrer une grande principauté. Hein, donc c'est la monnaie, l'État et toujours la Bretagne.
Alors, essentiellement, donc le XIIIe, XIVe, c'est le haut Moyen-Âge.
Ah non, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est le bas Moyen-Âge.
Le bas Moyen-Âge.
Oui, le bas Moyen-Âge. Bon. Oui.
Et vous êtes intéressé à la période plus avant, c'est-à-dire après la chute de l'Empire romain?
Assez peu, en fait. C'est un sujet qui est très intéressant, comment on passe de l'Empire à la création de la Bretagne avec l'immigration, mais ce n'est pas ma période de prédilection. Et pour éviter de dire des bêtises, il vaut mieux rester quand même assez bien fixé sur ces époques historiques. Donc les historiens universitaires aiment bien les périodes bien ciblées pour éviter.
Mais le Moyen-Âge est une période peu connue et je dirais même décriée. Parce que bon, le fait même qu'on ait après on appelait la Renaissance,
oui.
ça sous-entendait qu'il y a une période obscure.
Oui. Alors il y a énormément de problèmes qui se posent sur le Moyen-Âge. Et déjà la date du début du Moyen-Âge, on nous dit 476 et la fin du Moyen-Âge 1492. Pourquoi?
Oui.
Pourquoi? Parce que quand en 476 on demande à des Romains, on leur dit que l'Empire romain s'est effondré, ils disent ah bon, on n'était pas au courant. Bon, et en 1492, si Christophe Colomb découvre l'Amérique, c'est bien parce que les hommes du Moyen-Âge lui ont permis de la découvrir. Et que ce n'est pas un commencement, c'est une fin, c'est un aboutissement. Et que l'exploration des côtes, le développement maritime, etc., c'est mis en place bien en amont à partir du XIIIe siècle. Le terme Moyen-Âge, âge moyen, période de transition, 1000 ans de transition, c'est intéressant quand même de savoir que nous sommes plus près d'Anne de Bretagne qu'Anne de Bretagne ne l'était des premiers hommes du Moyen-Âge. C'est intéressant et le Moyen-Âge est aussi desservi par l'adjectif moyenâgeux, une torture moyenâgeuse, c'est toujours négatif, c'est toujours codoté. Or, pour se convaincre, le Moyen-Âge, ce n'est pas ça, il suffit d'aller voir la dentelle de pierre au Folgoat, par exemple, médiéval, 15e siècle, avec une belle marque en plus de fabrique des ducs de la maison de Montfort, ou bien plus largement, aller visiter une cathédrale, et là on découvre que le Moyen-Âge, c'est de la lumière, c'est de l'art, c'est un équilibre, donc c'est autre chose. Et puis, on traîne sur le Moyen-Âge une vision héritée à la fois des Lumières, pour qui le Moyen-Âge, c'est la féodalité, c'est le mal, c'est l'époque des seigneurs et des paysans. Et puis, une image née du XIXe siècle, la même empire. C'est-à-dire qu'il y a eu une longue période d'obscurité sur le monde, sur l'Occident, entre le Ve et le XVe siècle. Et à la suite de quoi, la lumière est enfin revenue, quelqu'un a rallumé la lumière, et hop, la Renaissance, et ensuite les Lumières, heureusement, tout va bien, actuellement on est sorti. Or, le Moyen-Âge, c'est pas ça, enfin, on peut pas réduire l'histoire à des grandes périodes de creux et des grandes périodes de lumière, c'est beaucoup plus complexe que ça, et le Moyen-Âge est une période lumineuse, avec de temps en temps des incidents, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir connu la guerre de 100 ans ou la Seconde Guerre mondiale? Enfin, en matière d'horreur, en matière de cataclysme, à la limite, la guerre de 100 ans avec ses nombreuses trêves, avec ses combats limités à certains champs de bataille, avec des périodes où finalement des régions qui s'en sortent bien comme la Bretagne, d'autres moins bien comme la Normandie, finalement, est-ce qu'il valait pas mieux vivre à cette époque-là comme 1942 en Europe? La question mérite d'être posée.
Oui, et puis si on déborde de la Bretagne, quand on prend les cathédrales de Chartres, de Reims, de Amiens, Beauvais, etc.
La Sainte-Chapelle.
Ou la Sainte-Chapelle, oui, si vous voulez, c'est
chef-d'œuvre.
C'est tout à fait. Oui. J'ai eu l'occasion de lire des extraits de correspondance entre Hildegard de Bingen et Bernard de Clairvaux. Je veux dire, c'est impressionnant de hauteur d'esprit, de transcendance, de philosophie, enfin tout sur toute l'organisation de la société, et même la projection sur l'avenir, c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait bien. Et alors, vous dites les monnaies parce que ça indiquait l'état d'une société. Alors vous avez dit quelque chose qui m'a surpris aussi, sur l'histoire, bon, on peut comprendre, sur le... Je ne sais plus exactement ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Que la monnaie indique quoi ?
Politique, économique, artistique.
Voilà, politique, voilà, politique, économique. C'est, ça me semble évident. Mmh. Artistique, pourquoi ?
Ah bah parce que le graveur, celui qui fabrique le coin monétaire, doit faire tenir sur une surface métallique et en creux un certain nombre de symboles qui lui sont fixés par l'État, par le pouvoir ducal ou pouvoir royal plus tard. Et donc il y a tout un travail de mise en page, de représentation du duc par exemple ou de la duchesse avec la célèbre cadière, les célèbres chez les numismates, la monnaie qui a été frappée pour Anne de Bretagne veuve au second semestre 1498, et c'est un chef-d'œuvre, mais réduit à un flanc de 3 cm de diamètre, même pas 2 cm de diamètre, et pour une pièce qui doit peser 5 grammes. Donc la monnaie suit bien les évolutions artistiques, elle se charge au fur et à mesure que l'époque gothique se charge elle aussi, les monuments sont de plus en plus fioriturés, les monnaies aussi, puis s'allègent ensuite, comme en suivant les évolutions de l'art en général. Donc c'est un bon marqueur des évolutions artistiques. Cela dit, c'est quand même d'abord un instrument économique et un instrument de propagande politique.
La monnaie de Paris continue cette recherche artistique, d'après vous ?
Oui, certainement, mais...
C'est une autre direction.
C'est une autre direction, c'est une autre, ce sont d'autres logiques, et la monnaie de Paris travaille plus actuellement dans la médaille, qui est un autre vecteur, c'est plus grand, ça a plus de relief, c'est plus marqué... C'est plus événementiel que la monnaie, alors que par ailleurs, les grandes banques centrales, elles, continuent à émettre des monnaies qui ne sont pas forcément toujours de très bonne qualité esthétique.
Oui, de moins en moins, et pas de très bonne qualité, effectivement. Alors, la monnaie virtuelle, finalement, ça indique bien l'état de société aussi.
Aussi. Alors, on a une évolution comme ça, et cette idée de vouloir quasiment supprimer les versements en liquide indique qu'on est peut-être en train de changer d'époque, que l'époque des monnaies sonnantes et trébuchantes est peut-être en train de passer.
Oui. Oui, c'est vrai que l'argent virtuel, au niveau artistique, c'est pas ce qui se fait de mieux.
Pas très sexy.
Non, tout à fait. Et alors, j'ai vu quelque chose qui m'avait surpris également dans votre biographie, c'est que vous venez de parler fort brillamment de la monnaie du Moyen-Âge et de la monnaie au Moyen-Âge. Alors, j'ai vu que vous étiez intéressé aussi aux monnaies vietnamiennes. Alors, c'est un autre monde.
Ah, c'est un autre monde, c'est passionnant. Le Vietnam, à partir du 19e siècle, enfin au 19e siècle, connaît une grande période faste avant de sombrer. Et donc on a 4 empereurs vietnamiens, dont les plus importants sont Gialong, Minh Mang, Thieu Tri et Thu Duc, qui règnent donc des années 1800 aux années 1880. Et curieusement, alors que la Chine n'a émis que des petites monnaies de bronze ou de cuivre d'assez médiocre qualité, les Vietnamiens émettent des grandes monnaies d'or et d'argent, très chargées symboliquement, puisque pour chaque valeur de monnaie, on a un élément tiré de la symbolique chinoise. Par exemple, la monnaie d'argent de 3 tiens, le tien c'est l'unité de base de la monnaie d'or et d'argent, représente les 3 longévités, sous la forme du bambou, du pain, et du prunier ou du pêcher, il y a débat. Le bambou étant la longévité courte de la journée, le pain étant la longévité de la vie, et le prunier ou le pêcher, nourriture des dieux, et la longévité de l'éternité. Et donc c'est absolument superbe, c'est totalement inédit, ça reste, puisque cette symbolique chinoise appliquée à la monnaie vietnamienne n'a pas ensuite été reprise. Donc on a des monnaies superbes, très peu connues, et en plus qui sont de véritables objets d'art, parce que elles ont été frappées en très petit nombre, et elles sont très connotées politiquement, puisqu'elles étaient remises par l'empereur d'Annam, l'empereur du Vietnam, à ses serviteurs, aux ambassadeurs, aux hommes, essentiellement, pas à ma connaissance, peut-être quelques femmes, mais aux hommes qui l'avaient servi ou qui l'avaient aidé. Et on les retrouve souvent percés en haut et en bas, parce que ceux qui les recevaient les portaient en décoration. Donc c'est absolument magnifique. Et on a des représentations de l'empereur du Vietnam portant ces superbes monnaies d'or et d'argent attachées à la poitrine, enfin suspendues, et c'est absolument superbe. Donc on a une monnaie qui est un apax dans la civilisation de l'extrême-orient au XIXe siècle et qui est absolument passionnante.
Et donc, ça n'a pas été suivi, vous le dites, mais au Vietnam ni autre part. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est particulier au Vietnam?
C'est particulier au Vietnam. Alors, ça a été poursuivi à l'époque de la colonisation, parce que curieusement, donc, au moment de la colonisation, l'empereur d'Annam a quand même conservé un certain nombre de droits. Et l'État colonial lui a laissé le droit d'émettre des monnaies, ce qui fait que les empereurs, jusqu'à Bao Dai, ont émis de toutes petites pièces d'argent et de zinc, qui sont caractéristiques du monde vietnamien, au XXe siècle. Et ils ont émis aussi quelques grandes monnaies d'or et d'argent, mais très peu, et d'un style très très dégradé par rapport aux monnaies du XIXe siècle. La monnaie reflète l'état d'une société. Les très grandes et très belles monnaies sont en général des monnaies de période faste, et les petites monnaies ratées ou dont les thèmes ne se renouvellent pas sont plutôt caractéristiques des périodes de crise. Et donc cette monnaie vietnamienne a été rayonnante au XIXe siècle, sans renouvellement au XXe siècle et d'une qualité nettement moindre. Mais tout à fait étonnante, puisque ni le Japon ni la Chine, pourtant très puissants voisins, la Chine est passée directement de la petite monnaie de cuivre au dollar, alors d'inspiration chinoise, mais quand même, et n'a pas poursuivi. Donc on a vraiment une période heureuse là dans la numismatique vietnamienne.
Et pour vous, l'explication donc de cette irruption, et puis de cette disparition, c'est donc lié à l'état de la société qui était particulièrement heureuse, la société vietnamienne du temps.
Voilà, en particulier les premiers empereurs de la dynastie Nguyen, à savoir Jialong et Minh Mang, très décriés en France parce qu'on les considérait comme des hostiles à la chrétienté et à la colonisation. En fait, pour le Vietnam, sont des personnages qui ont redressé considérablement le Vietnam, qui sortait d'une longue période de guerre civile et de division entre deux familles puissantes du Nord et du Sud. Et cette restauration s'est accompagnée d'un renforcement considérable de l'État, et Minh Mang est un chef d'État de premier plan pour les années 1820 à 1840, et Thieu Tri aussi. Thieu Duc, après, c'est moins franc. Et donc, Minh Mang voulait une monnaie à la mesure de sa puissance et du renouveau de son État, qui en plus à ce moment-là connaît un développement démographique important, une meilleure utilisation de la terre, une plus importante production du riz. Et donc on a un phénomène là d'apogée certainement du Vietnam du XIXe siècle.
Moi, ce qui me surprend, c'est que il y ait cette apparition du symbolique dans quelque chose qui est on ne peut plus pratique. La monnaie, c'est l'argent, c'est.
C'est toujours très très chargé de symboles.
Toujours
très très chargé de symboles.
De tout temps, c'était.
De tout temps, la monnaie, le symbole naît avec la monnaie. Enfin, les deux phénomènes sont inhérents. Et la monnaie est un vecteur extraordinaire pour faire passer une idée, puisque ça passe dans toutes les mains.
Ouais.
Et donc, la chouette athénienne, par exemple, c'est dans l'Antiquité. Une chouette, c'est une monnaie d'Athènes. Et donc, on sait que sur une pièce, on va avoir d'un côté le portrait d'Athéna, de l'autre côté la chouette, et le premier paysan du fin fond de l'Égypte de l'époque grecque ou de la Syrie de la même époque regarde la pièce et dit c'est une monnaie athénienne. Enfin, comme il n'y a aucun doute, comme nous, on voit un billet d'un dollar et on identifie tout de suite l'objet. Hein, donc, les États, le sachant, chargent considérablement symboliquement les pièces et ils mettent les symboles qu'ils ont envie de diffuser, les légendes qu'ils ont envie de diffuser. Parce que la légende est aussi importante. Quand le duc de Bretagne, je reviens à la Bretagne, Bretagne s'intitule sur sa monnaie d'or « Duc par la grâce de Dieu », c'est pas que la grâce de Dieu, c'est important, certes, mais c'est surtout qu'entre Dieu et le duc, il n'y a plus personne, et en particulier, ça lui permet de zapper le roi de France, l'empereur et le pape, d'ailleurs, au passage. Donc on est dans le message politique avec un duc représenté à cheval en armure, tenant une épée à la main, ou Anne de Bretagne sur son trône, portant un sceptre et une épée, encore, symbole de pouvoir souverain. Donc la monnaie trahit, la monnaie fait passer un certain nombre d'informations, quelquefois plus ou moins subliminales, quelquefois très nettes, et c'est tout à fait intéressant.
Alors, c'est passionnant, mais c'est aussi effrayant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de monnaie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idées.
Je ne me permettrai pas d'aller aussi loin. Bon, en tout cas, le renouvellement en matière de numismatique est assez effrayant, puisque on a eu pendant longtemps, beaucoup se souviennent des pièces de 10 francs et de 50 francs avec trois personnages, là, qui ont eu beaucoup de succès dans les années 70-80, qui était elle-même la reprise d'une pièce de 5 francs des années 1870, qui était elle-même la reprise d'une monnaie de l'époque révolutionnaire. La semeuse, oui. La célèbre semeuse des monnaies en nickel et des pièces de 5 francs en argent, là encore, les années 70, n'était que la reprise de la semeuse de rôti qui datait de 1900. Donc quand on en est contraint, quand on en est réduit à reprendre à l'infini des mêmes thèmes sans renouvellement, ça pose quand même le problème de ce qu'on veut faire passer comme message et de la difficulté à trouver des idées nouvelles. Donc peut-être un petit peu de renouveau, en effet.
Alors Yves Couettivi, on va revenir à vous. Parce que vous êtes également, dans le cadre de votre carrière, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes professeur à l'UBO, professeur d'histoire médiévale. Vous êtes également directeur de collection aux Presses universitaires de France.
Oui, j'avais proposé il y a de ça 3 ou 4 ans à Pierre Corbel, qui est le directeur des Pures, une collection pour publier les sources médiévales de l'histoire de la Bretagne. Alors, la source médiévale pose énormément de problèmes, elle est difficile à lire, hein, la paléographie, elle est parfois en latin, et elle est assez peu diffusée. Et donc, je souhaitais, c'est un travail qui avait été entrepris depuis longtemps par d'autres collègues, mais je souhaitais qu'on puisse mettre à la disposition du grand public cultivé et des chercheurs des textes accessibles et en français, c'est-à-dire des textes latins avec la traduction. Et donc c'est comme ça qu'est née cette collection, et elle fonctionne bien, puisqu'actuellement on a publié 4 volumes, les actes d'un duc de Bretagne du XIIIe qui est Pierre de Dreux, de son fils Jean le Roux, et puis deux cartulaires, et d'autres textes sont en cours. On espère bien finir les ducs de Bretagne de la maison de Dreux, aller de 1286 à 1341, et puis ensuite publier d'autres cartulaires, d'autres sources, d'autres textes, de façon à mettre à la disposition des bibliothèques et du plus grand nombre des textes originaux, et qui permettent aux étudiants de travailler plus facilement sur la Bretagne médiévale.
Alors, j'ai vu aussi que vous aviez obtenu en 2006 le prix du Chalet de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Alors, c'est quoi ce prix du Chalet et pourquoi vous l'avez obtenu?
Alors, le prix du Chalet, c'est un grand numismate du XIXe siècle qui s'est en particulier intéressé aux monnaies gauloises, mais pas que. Et donc, j'imagine, j'ai pas creusé l'affaire, mais j'imagine qu'à la fin de sa vie, il a créé un prix, il a créé une sorte de fondation et un prix pour encourager des recherches numismatiques. Et donc en 2006, j'ai été honoré de recevoir ce prix. Donc, ça m'a permis d'aller à l'Académie française, d'assister à une séance très intéressante. Et donc, c'est la reconnaissance de quand même quelques dizaines d'articles et de livres publiés sur le sujet. Donc, ça me fait toujours plaisir.
Et puis aussi, vous êtes surtout, je dirais pour votre venue aujourd'hui, le président de la Société d'études de Brest et de Lyon. Depuis quelle date?
Alors, depuis 2012. Puisque en 2012, le précédent président, qui était Patrick Galliou, a souhaité, pour plusieurs raisons, passer la main, et donc j'ai été élu président de la société d'études, et j'ai pris sa suite.
Et alors, cette société, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos d'introduction, elle a pris, après une période de sommeil de 40 ans tout juste, elle a pris la succession de la société académique. Alors, je bafouille, disais. Cette société académique, c'était quoi? Est-ce que votre fonctionnement actuel est différent ou calqué sur celui de cette société académique?
Alors, la société académique, c'est entre dans la catégorie générale des sociétés savantes au XIXe siècle. Des érudits se regroupent en sociétés savantes départementales ou urbaines, puisque ici c'était urbain, pour réfléchir ensemble, pour faire progresser la science historique et puis faire des inventaires de monuments, etc. Et donc se crée dans les années 1850 à Brest la société académique qui a pour but d'étudier l'histoire de Brest, mais aussi l'histoire en général, et puis qui est académique, c'est-à-dire qu'elle aborde à peu près tous les sujets pour toutes les régions, on va y trouver de la botanique, on va y trouver des récits de voyage, on va y trouver des articles plus scientifiques ou concernant un petit peu par exemple l'agriculture ou des choses comme ça. Et ces fondateurs sont déjà des personnalités, c'est Levaux par exemple, l'historien de Brest, c'est Moriès qui était son successeur à la tête de la bibliothèque municipale, ce sont des érudits. Et donc, ils se regroupent pour publier un bulletin annuel, le bulletin de la Société Académique de Brest, qui se réunissent une fois par mois pour des conférences et qui font aussi des sorties sur le terrain. Et quand on regarde le mode de fonctionnement de la Société Académique de Brest et celui de la Société d'études, on se rend compte qu'ils sont à peu près similaires, à ceci près que la Société d'études est beaucoup plus resserrée sur Brest, le Léon et la Bretagne, et n'a plus ce côté académique, qu'on appelait aussi polymathique dans le Morbihan, ou d'émulation dans les Côtes d'Armor. On est quand même plus resserré sur l'histoire, le patrimoine et la culture. Alors la société académique connaît le sort de beaucoup de sociétés savantes, c'est-à-dire que la guerre de 14 est absolument dramatique, puisque les gens qui la composaient, qui l'animaient, meurent pour beaucoup au front, beaucoup de ces érudits étaient officiers et tombent au champ d'honneur, au même titre d'ailleurs que les autres soldats. Et en 1918, la société académique ne reprend pas. Et elle ne reprend pas non plus sans doute parce que les temps ont changé, parce que... Après le traumatisme de la guerre, cette forme de culture est sans doute un peu passée. Certaines sociétés continuent à fonctionner, comme la Société archéologique du Finistère. Par contre, la société académique disparaît. Alors, on a bien des tentatives de reprise dans l'entre-deux-guerres et juste après la guerre, de gens qui veulent relancer des revues et des réunions, mais il faut attendre 1954 pour que le phénomène prenne réellement, avec la naissance autour, là encore, d'érudits que sont Soufflet, Thomas et d'autres, Graveau, j'en oublie, le médecin général Laurent, etc., la reprise, le redémarrage d'une société savante. Et avec un contexte qui a changé, c'est la disparition de Brest. Il faut imaginer que le Brest qu'ont connu les Brestois avant 1939 a entièrement disparu en 1945. Et donc, un des objectifs de la société d'études, c'est aussi de rappeler, de revivre, et c'est clairement dit dans le premier éditorial, qui est anonyme, donc qui est signé de l'équipe des fondateurs, de dire voilà, Brest a disparu, et nous allons essayer de sauver ce qui est sauvable de la mémoire de la ville. Et donc c'est comme ça que naissent les Cahiers d'Iroise.
Et donc c'est cette renaissance, elle est liée justement à la renaissance de la ville, enfin à la reconstruction de la ville, et à sa mémoire.
Et à sa mémoire, histoire. Voilà, c'est histoire et mémoire, voilà, un thème bien connu.
C'est ce qui a justifié, donc cette fois-ci, ça marche.
Oui, et ça a marché. Alors, ça a marché, puisque d'emblée, les Cahiers de l'Iroise, enfin, le nombre d'adhérents passe rapidement à plusieurs centaines, et d'emblée, le système fonctionne, les cahiers paraissent régulièrement, les réunions se tiennent, des expositions ont lieu, et puis, il est possible à la fin de la première année, si on compte le nombre de cahiers... Il y a peut-être eu un moment de flottement. On trouve très facilement les cahiers numéro 1 et numéro 2, par exemple, et par contre, les 3 et 4 sont plus difficiles à trouver. Il y a peut-être eu un ajustement. Et puis ensuite, ça a bien pris. Très rapidement, on est passé avec de la couleur, avec de la photo, les cahiers ont épaissi, et sont arrivés à ce rythme de 1 tous les trimestres.
Alors, la société, ce n'est pas seulement les Cahiers de l'Iroise. Vous l'avez dit, il y a des conférences, il y a un certain nombre, il y a des recherches qui se font dans d'autres, pour autre chose que la publication dans les cahiers.
Voilà. Alors, la publication, c'est la trace écrite, oui. c'est ce qui restera après nous. Il y a aussi des réunions mensuelles, donc tous les mois, la société reçoit en partenariat avec une autre association, l'ADU, reçoit des conférenciers sur des sujets en général qui traitent de l'histoire ou de la civilisation du patrimoine, et plutôt en Bretagne. Et puis, on essaie aussi d'organiser une sortie par an, c'est plus compliqué. compliqué à mettre en œuvre. Et depuis peu, on a initié des journées d'études. On a une journée d'études sur les 60 ans, l'an dernier, sur les 60 ans de la société d'études, qui était l'occasion de revenir un peu sur l'histoire. Ben voilà, l'histoire de notre histoire. Et puis, il y a ça une dizaine de jours, au château de Kerouadès, il y a une deuxième journée d'études sur les châteaux et manoirs, sur en Bretagne, en Léon surtout, sur leur origine, qu'est-ce que c'est, définition, plus universitaire comme approche, mais qui va bien aussi avec l'esprit de la société d'études.
Oui, puis c'est riche, enfin, les manoirs en Bretagne, c'est quelque chose de très très riche. J'ai un de mes collègues qui, je croyais d'ailleurs que c'est son sujet de thèse, qui a fait une étude sur les cantiques bretons, l'origine et l'histoire des cantiques bretons, c'est passionnant.
Oui, bah oui.
C'est passionnant.
Il y a des sujets, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure de la numismatique vietnamienne, il y a des sujets qui semblent un peu ardus ou totalement vides, et quand un chercheur se met au travail, il fait sortir énormément de choses. Enfin, les cantiques révèlent un état de la société, de la religion, les châteaux, un état de la noblesse et de la seigneurie, etc., etc. Donc on peut faire tout est objet d'histoire.
Ah oui. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez ciblé un petit peu les objectifs du centre d'études par rapport à ce qu'était la société académique. Alors, quels sont vos thèmes de recherche particuliers ?
Alors, la société d'études, il faut prendre un peu le problème à rebours.
Oui.
Nous proposons à ceux qui veulent écrire des thèmes. On dit, voilà, les Cahiers de l'Iroise vont publier un numéro, par exemple celui qui sort, là, hein, qui va sortir là, dans les jours qui viennent, qui portait sur 1870, une guerre oubliée. Donc, 6 mois, 8 mois, 1 an avant, dans le meilleur des cas, on annonce aux collègues, aux amis, aux érudits, on fait passer l'information, on la diffuse, en disant, voilà, nous réfléchissons sur un cahier sur, bref, le Léon et la Bretagne en 1870. Est-ce que vous avez des infos ? De notre côté, les membres de la société d'études, moi, Gérard Cissé, le secrétaire, Jean-Pierre Clerleroux, le trésorier, Albert Lahaute, l'ancien secrétaire, on essaye de chercher, via les modes habituels, les bibliothèques, les bibliothèques, les archives, Internet, etc., des auteurs qui ont travaillé sur le sujet. Et on regroupe des articles dont on demande qu'ils soient inédits ou en partie inédits. C'est-à-dire que c'est quand même une société savante, il ne s'agit pas de pomper des rubriques Wikipédia ou de feuilleter, de photocopier des ouvrages déjà écrits, ça ne sert à rien. Donc on essaye de trouver des articles inédits ou en partie inédits, et donc on va chercher partout où on peut espérer trouver un article. Et on construit le cahier comme ça.
En fonction.
Alors on a eu de très agréables surprises. Le premier cahier avait porté sur naufrage et sauvetage en mer Miroir. Donc là, ça posait pas de problème, il y a de la matière, on pourrait en faire plusieurs. Le deuxième cahier, et on avait illustré ce cahier par un tableau de Ramin, le peintre brestois de la rue Duquesne. Et Ramin nous dit, on n'a jamais rien écrit, ou pas grand, enfin peu de choses sur la Scandinavie. Le Brest, le Léon, la Bretagne et la Scandinavie. Bon, vous dites, pourquoi pas un thème sur la Scandinavie. Honnêtement, au début, je me disais, on va avoir deux articles. On a rempli tout le cahier. Un cahier qui doit faire 180 pages sur les rapports entre Brest, la Bretagne et la Scandinavie. C'est extraordinaire. Alors, voyage de navires de guerre en Scandinavie, passage de Pierre Perron. Pierre Perron navigue en Scandinavie, pas en la Scandinavie. C'est lui qui nous donne, d'ailleurs, enfin, c'est son fils et sa belle-fille qui nous ont donné l'autorisation de reproduire un de ses tableaux en première de couverture. La rogue, on a comment les marins bretons aller chercher la rogue pour la pêche, etc., etc. Et en fait, on tire un fil et on pense qu'il n'y a rien au bout. Et en réalité, les articles s'enchaînent et on arrive à remplir un cahier. Il nous est arrivé à peu près la même chose avec la guerre de 1870, dont on se demandait si on allait remplir nos 150 pages. Parce que, très enthousiaste, on a publié des numéros, des cahiers de près de 200 pages. Et d'un point de vue financier, comment ruiner une société en 10 leçons. Donc, j'ai décidé d'alléger un petit peu le volume et d'essayer de tenir les 150 pages. Ça durera peut-être un ou deux cahiers, mais c'est pas grave. Après, la société a de l'argent, donc autant qu'il serve. Mais disons qu'on arrive à publier comme ça sur des thèmes tout à fait originaux ou inédits, ou quelquefois moins originaux et moins inédits. On a fait un numéro hors série sur Brest souterrain, on a dû en vendre à peu près un millier actuellement, ou un peu moins d'un millier, entre 800 et 1000, mais c'est tout à fait intéressant.
Donc oui, justement, je rebondis, vous faites également des numéros hors série.
Oui.
Le prochain, c'est lequel ?
Alors le prochain, c'est le train. Les 150 ans, donc ça fait 150 ans où le train est arrivé à Brest. Donc ça sera le train et le tram, parce que c'est qui roule sur rail. Donc grand train, petit train aussi, parce qu'il y avait ce qu'on appelait les trains patates, les trains départementaux, et le tram, donc le tram d'avant-guerre, et pourquoi pas le tram actuel. Et donc ces numéros hors série, c'est pour essayer de bien regrouper, ils sont un peu plus courts, ils sont un peu plus ramassés, bien regroupés autour d'un thème, et puis il s'agit aussi de coller un petit peu à l'actualité ou de faire des choses un peu, il faut dire, un peu accrocheuses, hein. Le crime à Brest, Brest souterrain et le train, on sait que ça accroche, mais ça permet aussi de toucher un autre lectorat que celui de nos sociétaires. Nos sociétaires sont très attachés au cahier, mais ça permet aussi de dire qu'on travaille et de toucher plus de gens, dont on espère qu'ensuite ils adhéreront à la société d'études.
Donc ça fait 150 ans que le train est arrivé à Brest.
Voilà.
Alors, peut-être que dans 150 ans, on aura le TGV.
C'est possible, c'est possible. On peut,
tout peut arriver.
Oui.
Et alors, vous savez, est-ce que vous êtes lié organiquement avec l'université ou est-ce que c'est indépendant ?
Alors, la société d'études est née avant l'université de Brest, hein.
Oui.
Donc l'union s'est faite petit à petit. En fait, on a plusieurs universitaires qui ont dirigé ou collaboré de près à la société d'études. Et puis, on profite quand même bien de la présence de l'université de Brest et du centre de recherche Proton et Celtique. Mais on est lié par de nombreux liens, mais il n'y a pas de lien officiel.
D'accord.
Cela dit, pour l'instant, enfin, actuellement, c'est à l'université qu'on tient l'essentiel de nos réunions, qui est l'université met gratuitement à notre disposition des salles, du matériel, c'est très agréable, et bon, on le remercie. Déjà.
Et vos collaborateurs réguliers sont essentiellement des universitaires, des gens qui travaillent à l'UBO.
Et universitaires et érudits, érudits. Parce que il y a les universitaires, bon, dont c'est le métier,
oui.
Mais il y a aussi toute une population d'érudits qui travaillent sur leur ville, qui travaillent sur un sujet, qui travaillent sur un personnage et qui ne demandent pas mieux que de faire connaître leur travail, de le partager avec les autres. Donc on a toute une liste de collaborateurs réguliers ou exceptionnels et on leur demande, on leur parle à chaque fois de ce qu'on va faire et ils nous disent bon, moi j'ai quelque chose ou je n'ai rien mais je connais quelqu'un qui, et c'est comme ça petit à petit les articles arrivent dans notre escarcelle.
Vos collaborateurs occasionnels, c'est lié à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous faites une recherche, vous allez regarder quels sont ceux qui ont publié ou qui ont fait des études particulières sur tel ou tel domaine, et vos collaborateurs occasionnels viennent de cette manière. Enfin, vous les...
Voilà, ouais, on essaye toujours de varier. On évite, on essaye d'éviter que la société d'études tourne en cercle fermé. L'idée, c'est pas que ce soit toujours les mêmes qui publient toujours les mêmes articles, même si quand même on a... Enfin, personnellement, j'ai toujours quelque chose à dire sur l'histoire de Brest, Gérard Cissé, que vous connaissez bien.
Oui.
Toujours quelque chose à dire sur... On pourrait faire des numéros à nous tout seuls, mais c'est pas le but. Donc, on va piocher dans nos amis, chez les érudits. Et puis, ensuite, quand même, il faut essayer d'ouvrir. Donc, on essaye d'aller chercher au-delà des intervenants. Et on en trouve. Donc, c'est très, très, très agréable.
Yves Coativi. Pendant, ça fait maintenant, donc depuis 1954, que les cahiers de l'Iroise sont repartis, qu'est-ce qui a marqué les cahiers de l'Iroise ?
Alors, je pense que le plus touchant, le plus important dans les cahiers de l'Iroise, ça a été, dans les années 50, 60, 70, le côté populaire des cahiers. On en a eu un exemple très récemment, où une dame est venue nous dire qu'elle voulait nous donner la collection complète de des cahiers d'Iroise de ses parents, donc du numéro 1 au numéro 210. Madame Kerr en prend, et ses parents étaient, son père était ouvrier à l'Arsenal. et par attachement à sa ville. Alors, il était aussi engagé politiquement, syndicaliste, engagé aux maisons Castor, etc. Mais c'était quelqu'un qui s'intéressait à l'histoire de Brest, qui s'intéressait à l'histoire de sa ville, qui était passionné par sa ville. Et je crois que quand on arrive à toucher autre chose que justement ce dont on parlait tout à l'heure, que les érudits et les universitaires, on a quand même rempli le contrat. On fait parler de sa ville, de son histoire, auprès de gens qui ne sont pas d'emblée forcément intéressés par ça. Donc je pense que c'est ça le plus touchant, le plus marquant, et c'est quelque chose qu'on essaye encore de toucher le plus grand nombre de gens, hein, de leur faire partager notre passion et notre amour pour la ville et pour l'histoire de Brest.
Est-ce qu'il y a une évolution, justement? À l'origine, vous l'avez dit, c'était les gens... le public populaire se retrouvait dans les cahiers, oui, parce que c'était son histoire, c'était sa mémoire. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une évolution?
Il y a une évolution qui est celle des sociétés savantes plus généralement, qui est quand même plutôt... Alors, la société d'études s'en tire bien, parce que nous, on continue à progresser en matière d'adhérents, lentement mais sûrement, mais globalement, quand même, c'est une érosion de la culture savante. Et une érosion de ce genre de société dans lesquelles les gens, sans doute, ne se retrouvent plus. Alors, il y a une facilité d'accès à une certaine forme de culture, mais il faut être prudent. Wikipédia, c'est très facile d'accès, c'est très intéressant, on y a tous recours à un moment ou à un autre, mais il faut toujours aller au-delà, il faut toujours vérifier l'information, faut toujours se documenter, et se méfier, n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Internet, et donc partant de là, toujours se poser la question de savoir si ce qu'on lit est vrai. Alors, je sais pas, une formule brestoise bien connue, si c'est dans le Télégramme, c'est que c'est vrai, on pourrait dire que si c'est dans les cahiers de Lirois, c'est que c'est vrai aussi, donc lisez les cahiers de Lirois, contrôlez, vérifiez vos informations chez nous.
Et le prochain numéro, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça va traiter de la guerre de 1870. Bon, vous avez déjà commencé, vous pouvez développer un petit peu, vous avez dit cette guerre est un peu oubliée.
Alors, c'est une guerre qui est oubliée. Alors, on parle très souvent lors des commémorations des deux grands conflits mondiaux, 14-18 et 39-45, à juste titre, hein, qui ont été absolument terribles. Mais on a tendance à oublier que la matrice de ces grands conflits, ça a été la guerre de 1870. Qui offre à peu près tous les éléments qu'on retrouve ensuite en 14-18. La mécanisation, c'est le développement des mitrailleuses, c'est le développement de l'artillerie, c'est le poids de plus en plus lourd de l'artillerie et de la bombe sur le soldat, hein, les charges, la charge des cavaliers de Reichshofen, c'est bien, mais ça a été un désastre, ça a été inutile, un bain de sang inutile. L'infanterie, reine des batailles, certes, mais rapidement dominée par et écrasée d'ailleurs par l'artillerie. C'est un conflit qui est très marqué politiquement, enfin c'est de la guerre de 1870 que naît la Commune de Paris, c'est de la guerre de 1870 que date l'effondrement du Second Empire et la restauration de la République, c'est la perte de l'Alsace et de la Moselle. Et donc cette guerre est une sorte de répétition générale à la guerre aux guerres de 14-18 et 39-45, par aussi le traitement infligé aux populations civiles, le traitement infligé aux prisonniers, des deux bords d'ailleurs. La violence, on a à Paris, juste après la guerre, on a des scènes de populations qui s'en prennent à des femmes accusées d'avoir souri aux Allemands pendant un défilé ou une parade. Et donc on retrouve un certain nombre de choses, on a un certain nombre de choses qu'on retrouvera ensuite dans les deux grands conflits mondiaux. Et la Bretagne a participé à cette guerre. Les marins, assez peu. On a un article de Monsieur Deloy, bien connu à Brest sous le pseudonyme de Triton, qui parle de la marine dans la guerre de 1870 en montrant que sur une guerre terrestre, la marine a été assez peu et sans doute assez mal engagée. Mais en revanche, des volontaires, qu'on appelait les mobiles, ou des soldats d'active bretons, des communes ont dû participer à l'effort de guerre. Et donc c'est tous ces aspects-là qu'on voit. Et en plus, on a retrouvé un document inédit, on aime beaucoup les documents inédits, et on a retrouvé le récit d'un officier de mobile d'Ille-et-Vilaine qui nous raconte sa guerre, hein, monsieur Salier Dupin, qui part faire la guerre de 1870. Alors, on n'a pas traité cet épisode-là, mais par contre, il participe au siège de Paris, et donc c'est tout à fait intéressant. Il parle des autres Bretons, il parle de sa guerre. Alors, c'est C'est pas un homme de progrès, hein, visiblement. Bon, la gauche et la commune, enfin, c'est pas encore le cas, mais ça se présente, ça se profile. Il les aime pas beaucoup, mais en même temps, il révèle aussi l'état d'esprit d'un certain corps des officiers, très marqué à la fois politiquement et religieusement. Mais bon, c'était une autre époque. Et voilà, donc on a comme ça 40 pages de ce mémoire inédit. Donc voilà, cette guerre de 1870, oubliée, mais tout à fait intéressante. On essaye d'apporter on a traité 14 l'an dernier. Et cette année, ça sera 1870.
Oui, et toujours d'actualité. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure aux antennes, on disait que le concordat pour l'Alsace et la Lorraine, après la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, est lié justement aux conséquences de la guerre de 1870, oui. Avec l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne.
Voilà, quand la France récupère l'Alsace et la Moselle en 1918, elle les prend en l'État, et ne revient pas sur le régime concordataire. Donc, cette curiosité de l'histoire.
Alors, j'ai vu également parmi les articles quelques témoins métalliques de la guerre de 1870, c'est quoi ça?
Ah non, ça fait moi.
Oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
La guerre de 1870 est marquée par la frappe de quelques médailles qui commémorent, médailles, quelques décorations qui commémorent des épisodes, la mort du capitaine de la Mousset, capitaine des mobiles d'Ille-et-Vilaine, la messe des mobiles du Finistère au bois de Boulogne, comme quoi à l'époque on célébrait des messes au bois de Boulogne, un certain nombre de médailles ou de médaillettes liées au général Trochu, qui était breton, qui était de Belle-Île-en-Terre, ou bien encore des décorations pour les gens qui ont servi, donc après la guerre de 1870, décorations pour les gens qui avaient servi à l'ambulance bretonne, puisqu'il y avait dans un grand magasin parisien réquisitionné une ambulance bretonne où on soignait en fait les soldats bretons. Il y en avait beaucoup, à la fois chez les mobiles et chez les marins engagés dans l'artillerie qui défendait Paris au moment du siège. Et donc cette ambulance bretonne soignait les soldats bretons, et d'autant plus qu'il fallait des interprètes, hein, puisque les médecins étant parisiens et parlant français, les soldats étant très souvent bas bretons et parlant breton, il fallait un truchement, et donc c'est tout à fait intéressant. Et donc c'est ce thème que j'ai développé dans ce petit article.
J'ai lu il n'y a pas très longtemps les mémoires de Sarah Bernard, qui était bretonne d'adoption, qui raconte, il y a trois chapitres qui traitent justement de ce qu'elle a fait pendant la guerre de 1870 à Paris, et justement de son en tant qu'ambulancière et infirmière. C'est tout à fait intéressant, et ça apporte beaucoup d'éclairage, c'est vrai, sur cette guerre qui est un peu oubliée. Alors, c'était passé. L'avenir, c'est quoi pour la société d'études?
Alors, l'avenir pour la société d'études, déjà, c'est poursuivre la publication des cahiers. On l'a vu, prochain. Alors, donc, le numéro apparaître 1870, prochain numéro sur le train et le tram, et puis ensuite d'autres numéros déjà prévus, comme un numéro sur les bateaux-écoles et les écoles militaires à Brest. Puisqu'il y en a eu, il y en a encore, ou bien un numéro sur la marine en bois. Alors, marine en bois, vieux gréement, c'est-à-dire qu'on va essayer de le faire paraître au moment des fêtes nautiques de 2016, et pour revenir un peu sur à la fois les bateaux de tradition, ceux qui naviguent encore, ceux qui ont navigué, une thématique comme ça. On va aussi avoir un numéro que j'appelle Fleur des Champs, c'est-à-dire dans lequel on regroupe des articles qui n'entrent pas forcément dans les thèmes des cahiers, mais qui sont intéressants. Et donc là, pour ce qui est des cahiers, on a un programme qui est bien chargé, qui est annoncé d'ailleurs sur le site internet de la société d'études, les cahiers de l'Iroise. Et par ailleurs, la journée d'études sur les châteaux a remporté un grand succès et a montré que le sujet n'était pas vidé, donc il y aura une seconde journée l'an prochain pour remplir un ouvrage sur le thème des châteaux et manoirs en Léon. Et enfin, je peux vous annoncer un scoop, ce qui est assez inattendu, inhabituel au cahier de l'Iroise, les premiers à bénéficier de l'information, vraiment les premiers. La société d'études vient d'acquérir un tableau qui représente un gouverneur de Brest, donc M. de Castelnau, le deuxième M. de Castelnau, parce qu'il y en a eu deux, il a succédé à son père à l'âge de 13 ans, Michel de Castelnau, et donc ce tableau représente le gouverneur de Brest, et il est écrit Michel de Castelnau, gouverneur de Brest. Ce qui qui fait, ce qui rappelle un autre tableau qui est actuellement au musée, qui est celui de René Drieu, seigneur de Sourdéac, gouverneur de Brest lui aussi, et l'existence de ces deux tableaux nominatifs et attribués à un gouverneur de Brest laisse penser qu'il y avait une galerie de portraits. Galerie de portraits qui a sans doute été pillée à un moment, peut-être lors de la Révolution française, ou vendue lors de la Révolution française, ou une partie du patrimoine brestois répandu dans la nature, et donc c'est tout à fait intéressant. On a décidé d'acquérir ce tableau et de voir ensuite pour en faire don, enfin en faire profiter la communauté. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais sans doute un don au musée des Beaux-Arts. Donc c'est une nouveauté, c'est un peu inhabituel, mais c'était un fragment de patrimoine brestois qui s'agissait de ne pas laisser, qui revient à la maison et qui ne s'agissait de ne pas laisser filer, parce que s'il avait été acquis par un collectionneur breton ou non breton, il risquait de disparaître pour plusieurs dizaines d'années dans une collection privée. Donc c'était l'occasion de participer, et comme un des buts de la société d'études, c'est la promotion du patrimoine brestois, et bien là typiquement la société d'études est dans ses fondamentaux.
Merci de ces initiatives, et puis c'est information.